Montréal accueille en fin de semaine, à partir du 17, du 17 au 26, le Salon de l'Auto de Montréal. Vous allez être nombreux à être ou bedon des ouéreux ou bedon des sérieux, hein, pour aller voir les véhicules. Mais un Salon de l'Auto, ça se prépare, puis de plus en plus de constructeurs décident de faire des annonces préalablement au Salon. Alors, pour parler de cela et de bien d'autres choses, notre chroniqueur automobile est aujourd'hui avec nous, bien sûr, Marc Bouchard. Je m'en vais le rejoindre tout de suite. Salut, Marc.
Salut, mon cher.
Bon, alors, le Palais des congrès de Montréal aura ta visite, si j'ai bien compris.
Oui, effectivement. Nous, on y va jeudi, parce que jeudi, c'est la journée de presse. Donc, c'est la journée des dévoilements, comme ça se fait dans la plupart des grands salons. J'ai bien aimé, cependant, dans ton introduction, le fait que tu aies signalé que plusieurs manufacturiers, maintenant, font ça d'avance. L'idée, elle est simple, c'est que normalement, quand on allait dans les salons, à ma glorieuse époque quand j'ai commencé, je ne sais pas ça fait combien d'années, on allait au salon de Détroit, par exemple, et on était là pendant 3 jours, on avait des conférences de presse à peu près toutes les 20 minutes pour des dévoilements nouveaux. OK? C'était complètement fou, okay. On dévoilait 50 voitures, sauf qu'à l'époque, la couverture se faisait de façon différente. Aujourd'hui, avec Internet, beaucoup des informations ont déjà filtré. Dans le cas du Salon de Montréal, il y a beaucoup de véhicules qu'on a même déjà vus au Salon de Los Angeles ou ailleurs. Et quand il y a les journées de presse, où là, tu as les journalistes sur place, les manufacturiers commencent à trouver qu'ils n'ont plus de visibilité. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des soirées préalables, 2-3 jours avant. Hier soir, moi, je suis allé à la soirée de Kia, par exemple, où on nous a présenté le nouveau Seltos, histoire d'avoir un peu de visibilité avant la folie du salon lui-même.
OK.
Ça, c'est la nouvelle tendance. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà d'avance presque la liste des véhicules qui vont être exposés. On les a presque tous déjà vus. Et c'est moins une surprise, si tu veux. Donc, pour les amateurs, pour ceux qui suivent ça, je peux te dire que ce matin, j'avais des tonnes de questions sur des véhicules que, honnêtement, même moi, je n'avais pas remarqué qu'ils seraient au Salon de Montréal. Mais il y a vraiment des fans qui étaient parfaitement au courant de tout ce qui s'en vient.
Okay. Est-ce que on est amateur de voiture ou on est dans le marché de changer de voiture, c'est une bonne idée le Salon de Montréal?
C'est toujours une bonne idée un Salon de l'Auto. Moi, je suis un fan fini de Salon de l'Auto. Parce que c'est le seul endroit où tu peux vraiment voir les véhicules, t'asseoir dedans, faire le tour un peu, aller voir de quoi ils ont l'air en personne. Parce que souvent, on se contente des photos, et moi, le premier, je regarde certaines photos, puis je me dis, il me semble qu'il aurait pu mieux réussir celui-là. Et quand tu le vois pour vrai, tu te rends compte qu'il y a des différences au niveau du design. Alors, ça vaut vraiment la peine, d'autant qu'un salon comme le Salon de Montréal, là, on parle d'à peu près 550 à 600 véhicules sur place. Et t'en as vraiment pour tous les goûts. Là. T'as les nouveautés. Je te parlais de la Kia Seltos 2021, par exemple, qui va être là. Tu vas avoir des nouveautés qui vont attirer du monde. Écoute, je suis sûr qu'il va y avoir une file d'attente pour aller voir la nouvelle Chevrolet Corvette, par exemple. Parce qu'elle est absolument spectaculaire et le look est incroyable. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir une file d'attente pour ça. Et la plupart des constructeurs font vraiment des efforts. Je pense à Ford, entre autres, qui amène sa fameuse Ford Mustang Mach-E, sa fameuse Mustang US électrique. Là.
Ouais.
Elle va être à Montréal. Alors, c'est probablement le seul contact que tu peux avoir avant la sortie du véhicule qui est prévu pour novembre.
Hein? Oui, je comprends.
Donc, c'est toujours un élément fort intéressant. Et je dois avouer que les manufacturiers, il y a beaucoup de manufacturiers qui ont décidé de se retirer des salons parce que ça coûte trop cher.
Ouais.
Je pense à des Mercedes-Benz de ce monde, par exemple. Mais les concessionnaires, eux, ont choisi d'y aller quand même. Donc, ils n'ont pas le support de la compagnie, mais ils vont quand même présenter des véhicules Mercedes-Benz au Salon de l'Auto de Montréal.
Ah, OK. C'est des concessionnaires qui décident d'y aller. Eh bien.
Oui, parce qu'à ce moment-là, eux autres disent, écoutez, nous, on veut rentrer en contact avec nos clients. On comprend que Mercedes ne veut pas investir. Écoute, il y a des sommes faramineuses qui étaient investies dans les salons. Je te donne des exemples, ces salons internationaux. Là. Audi avait construit un pavillon à Francfort qui avait coûté 11 millions d'euros.
Ben voyons donc.
Oui, absolument. Quand tu vas au Salon de Détroit, Mercedes-Benz, uniquement pour l'espace, pas de tapis, pas de chaise, c'était 550 000 US.
Eh boy!
Alors, tu sais, à un moment donné, ça devenait complètement fou, complètement abusif. Donc, le Salon de Montréal travaille surtout avec les concessionnaires. Des fois, ils ont l'appui des manufacturiers, ce qui permet d'avoir des nouveautés. Mais même quand ils n'ont pas l'appui des manufacturiers, les modèles vont être là quand même. Mm-hmm. C'est juste que tu n'as pas les derniers, les plus récents ou les prototypes qui ont été présentés récemment.
Je comprends. Une parenthèse, est-ce que le salon de l'auto d'Ottawa existe toujours parce qu'il est comparable à Montréal?
non, pas du tout, pas comparable. Il existait, il était là l'année dernière. C'est un petit salon régional qui est justement fait strictement par les constructeurs, ben, par les concessionnaires qu'il y a autour. Donc, c'est pas un salon qui est au même niveau. Là, on parlait d'à peu près 150 véhicules de mémoire contre les 600 de Montréal. Okay. C'est sûr que Montréal, Toronto et Vancouver, ce sont les trois salons dits internationaux au Canada. Ce sont les trois plus gros. Il y en a un à Québec, il se compare à celui d'Ottawa. Il y en a un à Edmonton aussi qui se compare à celui d'Ottawa. Mais on n'est pas dans le même calibre que celui de Montréal, qui, je dois le dire, même si ça me fait mal au cœur, n'est même pas dans le même calibre que celui de Toronto.
Ah oui, hein, Toronto, c'est wow.
Toronto, c'est wow parce que Toronto, généralement, profite des nouveautés qui ont été présentées. Mais là, cette année, j'ai hâte de voir, là, parce que normalement, les véhicules qui sont en exposition à Détroit en ce moment, parce que normalement, c'est le salon de Détroit, mais lui, il a été reporté, ben, ils s'en venaient à Toronto en février. Alors, Montréal les avait pas. Mais là, il n'y a pas de salon de Détroit en janvier. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que Toronto va pouvoir présenter comme primeur. On verra ce que ça va donner.
OK. On va, Marc, changer de sujet. Tu veux nous parler du palmarès des véhicules nord-américains qui, dans le fond, en fait, non, je m'exprime mal. Là. Le palmarès, il y a un palmarès qui vient de sortir concernant les véhicules nord-américains. Est-ce que ça, c'est correct?
En fait, c'est le prix des véhicules nord-américains de l'année. C'est un prix qui est excessivement prestigieux parce que il est nommé par 75 journalistes des quatre coins de l'Amérique du Nord.
OK.
Et ça touche tous les véhicules nouveaux. C'est encore une fois, normalement, un prix qui est remis au Salon de Détroit, mais qui, bon, vraisemblablement, l'a été autrement. C'est le plus gros en importance des trophées qu'un véhicule peut remporter.
OK. Puis là, on a les résultats?
On a eu les résultats hier. OK. Il y a eu trois gagnants. Du côté du camion de l'année, c'est le Jeep Gladiator.
OK.
Gladiator, on se rappelle, là, c'est l'espèce de Jeep Wrangler pick-up, là. Avec une boîte. C'est un véhicule qui est effectivement très surprenant et qui va très, très bien. Donc, Jeep Gladiator. Il y a la Chevrolet Corvette dont je te parlais un peu plus tôt qui a gagné dans la catégorie des voitures de l'année. Et ça, c'est pas étonnant parce que la Corvette actuellement, même s'il y en a plus disponible, vous pouvez passer une commande, mais ça va être long. C'est une voiture qui est absolument spectaculaire, des performances de fou et un prix très, 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 très bas, en fait, pour ce qu'elle propose. Donc, c'est une voiture qui le méritait. Et le troisième gagnant, c'est ma surprise à moi, c'est le véhicule utilitaire sport de l'année, c'est le Kia Telluride.
Ah, ouais?
Ouais. Et, écoute, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très beau, mais ce qui m'impressionne, c'est que le Telluride a remporté le prix en Europe, a remporté le prix nord-américain, a remporté le prix Car and Driver, qui est un important magazine aux États-Unis, et a remporté le prix Motor Trend aux États-Unis. C'est la première fois qu'un VUS remporte ces trois prix-là aux États-Unis la même année.
Wow!
Et je te rappelle, à des fins, si on veut continuer, au Salon de Montréal, l'Association canadienne des journalistes dont je fais partie va nommer ses 12 gagnants par catégorie, si tu veux, et la voiture de l'année et le VUS de l'année vont être nommés au Salon de Toronto. Et étrangement, le Telluride est aussi en nomination.
Eh bien, fait que c'est un bon achat, là. Vous avez un coup de cœur. Les experts, vous aimez ça, le Telluride.
Écoute, c'est un véhicule qui est honnêtement très impressionnant. Impressionnant en termes de look, en termes de capacité aussi. C'est sûr qu'il y a la version Hyundai Palisade qui est aussi très belle, mais le Telluride a vraiment, vraiment frappé direct dans le cœur tout le monde.
OK, puis il vaut combien, tu sais-tu?
Ben, écoute, c'est quand même un gros 7 passagers. Là. On parle de 40 000 $ et un petit peu plus là, dans les versions équipées. Mais tu sais, comme je te dis, c'est un gros 7 passagers. Là.
OK. Je veux aborder un dernier sujet. On s'en est parlé d'entrée de jeu avant, en hors d'onde, parce qu'aujourd'hui, à la ville de Gatineau, on est en train de consulter. C'est un peu mêlé. Là. Je pense que Jean-François Leblanc, ce matin, était plus mêlé que d'autres choses quand il est venu en entrevue. Ça, c'est un conseiller municipal. Mais on veut prendre un virage vert dans les normes de construction de résidences et... Le lien avec toi, c'est que ce que je comprends, c'est que pour certains types d'habitations, la ville de Gatineau veut obliger les constructeurs à prémunir, à préparer le logement, les résidences, pour se doter de bornes pour recharger les véhicules électriques. Est-ce que c'est une nouveauté, puis Gatineau est en train de révolutionner le marché, ou ça existe déjà? Comment ça marche? Est-ce que tous les véhicules se rechargent de la même façon? C'est à peu près ça mes questions.
Ben, en fait, la réponse, c'est non, c'est pas une nouveauté parce que ça a déjà été à l'étude. C'est déjà inclus dans le code du bâtiment pour des immeubles de grande dimension. C'est 5 logements et plus de mémoire, là, qui sont obligés de prévoir un certain nombre de prises de courant pour des bornes potentielles. Mais là, il faut faire la différence. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bornes de recharge que l'on installe dans ce cas-là, c'est uniquement le filage, donc la prise 220, qui va pouvoir recevoir la borne. Parce qu'il y a plusieurs modèles de bornes différents, et chacun de ces modèles-là répond à des besoins différents. T'sais, si tu as une Tesla, par exemple, tu n'auras pas la même borne que si tu achètes une Chevrolet Bolt ou une Nissan Leaf. Okay? Donc, il y a des différences au niveau des bornes. Donc, ce que la ville propose probablement, c'est de préparer le terrain, donc d'avoir une sortie 220 qui serait prête à recevoir une borne, et le résident, quand il va arriver, s'il y a effectivement une voiture électrique, achètera la borne de son choix qui va se marier à sa propre voiture.
Mais c'est compliqué pour un multilogement, alors tu le sais pas. Quand le promoteur, là, le constructeur, il donne la prise 220, mais là, c'est du locataire. Tu sais pas quand ils vont changer après un an, tu sais pas quel genre de voiture. Comme concrètement, ça doit être difficile d'équiper un bâtiment pour que toutes les prises puissent être disponibles.
Non, parce que c'est là, les bornes elles-mêmes, même si, en fait, la borne, là, elle se branche toujours sur une prise 220, comme si c'était une prise sécheuse à l'extérieur.
Non, je comprends, okay? mais la borne, Marc, là, la borne comme telle, là, tu dis que c'est pas la même pour une Tesla par rapport à une Volt, mais toi, t'es constructeur, tu le sais pas qu'est-ce que ton prochain locataire dans deux ans va avoir?
Et c'est pour ça que les règlements actuels, ceux qui fonctionnent, ne demandent pas d'installer une borne, demandent strictement d'installer la prise 220. C'est le locataire lui-même qui va fournir sa borne.
Ah, je comprends. Puis il va repartir avec quand il va déménager.
Puis il va repartir avec quand il va déménager. Okay. Il y a maintenant même des bornes mobiles que tu peux traîner. Donc, tu repars avec. Donc, tu la payes. Elle vaut entre 500 et 1500 $. C'est toi qui la payes. Tu as même droit à une subvention jusqu'à 500 $. Mais tu repars avec aussitôt que t'es parti, tu déménages, tu pars avec tout simplement. Ou si tu changes de modèle de voiture. Ouais. Parce qu'il n'est pas dit que tu vas avoir la même Tesla pendant 10 ans, parce que d'après moi, tu ne te rendras pas. C'est un commentaire éditorial.
Hey, juste en passant, j'ai jamais posé cette question-là. J'ai une Tesla, elle est à peu près vide, là. Ma batterie est vide, OK? Je veux la brancher, puis je veux la remplir. Puis je paye à l'usage. Je le sais tout de suite, là. Mettons, je mets ma carte de crédit dans la borne. Combien ça me coûte remplir en électricité une Tesla?
En fait, ça dépend de la borne que tu utilises. Tesla, ça dépend des endroits. Si tu es au Canada, tu peux acheter un forfait d'avance qui te permet d'utiliser les superchargeurs. Sinon, tu as des coûts à l'heure. Je pense que c'est 10 $ ou quelque chose comme ça. Puis tu peux charger, mettons, pendant une heure et demie, puis ta voiture va être pleine à 70%. Donc, tu vas pouvoir te rendre où tu veux ou à peu près. C'est le même principe pour les bornes de recharge publiques pour n'importe quelle autre voiture. Alors, tu as des bornes qui sont des bornes plus lentes, les bornes sur le 220, justement. Ça prend 7, 8, 9 heures chargées au complet de voiture, mais ça, c'est une pièce de l'heure. Si, par contre, tu vas sur ce qu'on appelle les bornes de recharge rapide, les bornes qui sont à 400, quelques... Ben à ce moment-là, ça te coûte maintenant presque 12 $ de l'heure.
Okay.
Mais normalement, en une heure et demie ou à peu près, souvent moins, ta voiture va être à 80 %. Parce que sur ces bornes-là, tu ne charges jamais plus de 80 % sur les bornes rapides.
OK. Puis toi, tu es en train de m'expliquer qu'à la maison, sur le 220, c'est pas considéré comme une borne rapide, ça.
Non, une borne rapide, c'est 400 quelques. Une borne de maison, 220, ça va te prendre entre 8 et 10 heures pour charger ton véhicule, peu importe la nature du véhicule ou à peu près.
Wow, puis si, parce qu'il y en a qui sont branchables aussi sur le 120, hein?
Oui, à ce moment-là, écoute,
c'est encore plus long.
Pas de chercher. Moi, j'ai fait le test avec une Hyundai Kona, qui est bonne en théorie pour 415 km d'autonomie, et elle s'est remplie après 33 heures.
Imagine. Très intéressant. À la semaine prochaine, Marc. Merci beaucoup.
Bye bye, bonne semaine.
Salut, Marc Bouchard, notre chroniqueur automobile. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve demain pour un autre Solide comme le Rock.